France Inter.
Naturellement, l'impôt, il doit changer. Mais ceux qui paieront davantage, ce sont ceux qui gagnent le plus. J'ai proposé un impôt sur les grandes fortunes à partir de 3 millions de francs. Et compte tenu qu'il ne convient pas d'imposer l'instrument de travail, disant cela, je pense particulièrement aux exploitants agricoles.
Mars 1981, octobre 2025, plus de 40 ans nous séparent de la création de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, sous François Mitterrand, dont vous aurez peut-être reconnu la voix dans cette archive de l'INA. Mais avez-vous bien tendu l'oreille dès le début, dès le premier projet de taxation des grandes fortunes? L'outil de travail est exclu du périmètre de ce nouvel impôt, une exclusion à la demande du patronat, hein, qui est notamment la famille Bettencourt. Il serait absurde, nous dit Mitterrand, de taxer le tracteur de l'agriculteur. Or, déjà à l'époque, le sujet est bien plus vaste. Pour les plus fortunés, patrimoine personnel et professionnel sont très souvent imbriqués, mélangés. Conséquence, le taux d'imposition des super riches est inférieur la plupart du temps à celui des riches tout court. Alors, des décennies plus tard, on ne parle plus d'exploitation agricole, hein, mais de start-up de l'intelligence artificielle. Et pourtant, c'est bien cette même question, celle d'inclure ou non les biens professionnels, qui enflamme l'Assemblée nationale. Hier, c'était le jour J, le gouvernement de 2025 ne veut pas toucher à cette exclusion, cela casserait la confiance, cela freinerait la croissance. Et dans l'hémicycle, les députés ont donc tranché, pas de taxe Zucman, pas de changement de paradigme, mais tiens, le retour d'une forme d'ISF, selon les mots du PS, qui s'est emparé d'une proposition du Modem, mesure adoptée avec les voix du RN. Il était 23h, là encore, pas touche aux biens professionnels. La digue construite dès 1981, quand les socialistes étaient au pouvoir, résiste toujours.
On n'arrête pas l'écho. Claire Chaudière sur France Inter.
Et soyez les bienvenus dans le Mag Écho de France Inter. On vous raconte les coulisses de l'économie. On est ensemble jusqu'à 10h. En régie, derrière la vitre de ce studio, vous trouvez bien sûr Valentin Pérez, Céline Hila à la réalisation, Julien Thévenot à la technique, Joseph Pascal était notre chasseur de son et Titouan Labarre au mixage cette semaine. L'invité de ce samedi 1er novembre dirige une grande banque, pas comme les autres, qui investit dans 160 pays et beaucoup sur le continent africain. Nous parlons de l'AFD, l'Agence française de développement, au cœur d'un secteur en pleine tourmente, celui de l'aide publique au développement. Ses budgets s'effondrent partout dans le monde, y compris en France. Interview de Rémi Rioux vers 9h40. Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire se tenait d'ailleurs ces jours-ci à Bordeaux. On ira prendre des nouvelles de la santé de ces structures associatives qui font de l'insertion par l'activité professionnelle un modèle économique qui vacille. Vous entendrez le reportage de Léa Gage. Et puis Ma vie au boulot, ce sera juste avant la fin de cette émission avec vous. Sandrine Foulon, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour tout le monde.
On parle départ à la retraite, et alors que Sébastien Lecornu a annoncé hier que le gouvernement a accepté finalement de renoncer au gel des pensions notamment, Sandrine, vous allez répondre tout à l'heure à Marilyn qui s'interroge sur la prime versée par l'employeur.
Oui, Marilyn a 40 ans d'ancienneté et elle voudrait tout simplement savoir quel sera le montant de son indemnité de départ en retraite.
À tout à l'heure Sandrine, juste avant les infos de 10h. Mais tout de suite, l'actu écho de la semaine décryptée, décortiquée autour d'un café avec la journaliste Sophie Fay. Hello Sophie.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Service économie du journal Le Monde. Et Patrick Artus, bonjour, bonjour.
Bonjour Claire.
Conseiller économique chez Ociam, société de gestion d'actifs financiers. On va revenir avec vous deux sur cet épisode d'apaisement, de désescalade dans le conflit commercial qui oppose Washington et Pékin. C'était avant-hier, 1h40 d'entrevue entre Donald Trump et Xi Jinping qui ne s'était pas vu depuis 6 ans. Énorme succès, hein, vous savez, l'entourne selon le président américain, après des mois de montée en tension. Mais qui sort réellement gagnant de ce bras de fer? Et l'Europe dans tout ça, doit-elle se réjouir ou trouver au contraire que ce qu'elle a obtenu de son côté est plutôt maigre, hein? C'est notre débat du jour.
Donald Trump a rencontré ce matin son homologue chinois. Point d'orgue de sa tournée asiatique. Il semble avoir enterré la hache de guerre.
Compte tenu de nos situations nationales différentes, il est naturel que nous ayons parfois des désaccords.
Xi Jinping, président de la République populaire de Chine.
Face aux défis et aux turbulences, il incombe au chef d'État, en tant que capitaine, de diriger le navire des relations sino-américaines en maintenant le cap et en gérant la situation.
Baisse des droits de douane sur les produits chinois de 20 à 10%. En échange, un accord sur les terres rares. Et Pékin va reprendre ses importations du soja américain. La Chine achète un quart de leur production.
C'était un grand succès. Ce fut un grand honneur.
Donald Trump, président des États-Unis.
C'est un leader extraordinaire d'un pays très puissant et je lui voue un grand respect. Nous apprécions qu'il soit venu à cette réunion. Toutes les terres rares ont été réglées et ça vaut pour le monde entier.
Trump a largement sous-estimé la capacité de résilience et de résistance des Chinois.
Emmanuel Combes, économiste, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Je regardais un graphique du Peterson Institute sur les représailles chinoises. Ils appliquent vraiment œil pour œil, dent pour dent. Alors on voit Trump monter les droits d'or. J'ai plus le chiffre exact, c'est de 100 ou 120%. Le lendemain, vous avez la Chine qui dit « mais ok, vous voulez mettre 120 ? Je vais mettre 130 ». Donc cette capacité du gouvernement chinois à se dire « de toute façon, je vais jouer le bras de fer ».
Dans la rencontre entre Xi Jinping et Trump...
Christian Saint-Etienne, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers.
Il est clair que les questions de terres rares ou de droits de douane sont importantes, mais ce sont deux géants qui, eux, regardent à 10 ans et se disent lequel des deux va niquer l'autre dans ce conflit pour la domination mondiale.
Moi, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que l'Union européenne est aussi dans un étau entre la Chine et les États-Unis d'autre part.
Marie Carpata, chercheuse à l'Institut français des relations internationales.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette rivalité entre Pékin et Washington pour la suprématie technologique. La Chine a mis en place des contrôles aux exportations sur le germanium, le gallium, le graphite, maintenant également sur les terres rares, dont l'Union européenne a besoin. Donc elle emploie ce levier comme une force de coercition, comme une arme.
Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet accord ? Sophie Fay, expliquez-nous.
Alors, c'est pas du tout un accord global. Hein. C'est un accord où ils ont réglé plusieurs problèmes qui étaient très urgents, liés à la dernière escalade, la dernière phase d'escalade des tensions. Mais c'est un accord temporaire, puisque à peu près tout ce qui a été obtenu est obtenu pour un an. Donc, il va falloir consolider tout ça. Donc, le premier point, on va regarder d'abord ce que les États-Unis ont gagné. Hein. Le premier point, c'est qu'ils ont gagné sur les terres rares, parce que la dernière décision de la Chine, le 9 octobre, c'était de durcir considérablement les conditions d'exportation de ces matières dont on a besoin dans les moteurs d'éoliennes, les moteurs de voitures électriques, dans les systèmes de guidage de missiles. Donc ça, la Chine avait arrêté de les exporter. Ils avaient mis en place un système très précis qui permettait de cibler à qui on refusait de les exporter et qui permettait aussi de recueillir des informations sur toute l'industrie mondiale. Donc ça, la Chine a accepté de suspendre ça pendant un an. Premier gain pour Donald Trump. Le deuxième gain, c'est que la Chine va reprendre les achats de soja aux États-Unis. Elle achetait un quart du soja américain et donc ça va repartir. La Chine achetait plutôt au Brésil, elle va racheter aux États-Unis. Donald Trump est content. La troisième chose qu'il a obtenue, c'est que...
Oui, c'est énorme, hein, 12 millions de tonnes de soja américain achetées par les... qui s'engage à racheter.
Exactement. Mmh. Et la Chine va par ailleurs renforcer ses contrôles autour du fentanyl, vous savez, ce médicament qui fait des ravages aux États-Unis par overdose. Puis ils ont trouvé un mode de travail sur l'avenir de TikTok. Donc ça va pouvoir avancer l'avenir de TikTok aux États-Unis. Alors en échange, qu'a obtenu Pékin ? Ils ont obtenu quand même 10 points de droits de douane en moins. Hein. Ils payaient en moyenne 57%, ils payeront en moyenne 47%. Mmh. Ils n'ont plus cette épée de Damoclès d'une surtaxe de 100%. Les bateaux chinois n'ont plus de droits à payer quand ils rentrent dans les ports américains. Et comme ils avaient appliqué la même mesure en miroir, les bateaux américains ne payeront plus en rentrant en Chine. Et surtout, ce que Xi Jinping a fait, c'est qu'il a fait rentrer dans un accord commercial, dans une négociation commerciale, un point qui relevait de la sécurité nationale aux États-Unis. C'est-à-dire que les Américains ont mis 1300 sociétés chinoises sur une liste noire qui ne peuvent pas importer de produits technologiques sensibles des États-Unis. Les États-Unis voulaient élargir cette liste qui aurait pu mettre l'industrie chinoise à l'arrêt. Et Xi Jinping a obtenu que ce soit gelé pendant un an. Et puis, cerise sur le gâteau, ils se sont mis d'accord sur une visite d'État de Donald Trump en Chine en avril 2026. Donc, ils étaient très satisfaits, mais encore une fois, attention, car tout ça...
Oui, c'est pas la fin du
voilà,
film, là.
C'est pas la fin du film. Il y a un point sur lequel on peut se réjouir, quand même, nous, les Européens, c'est que cette histoire des terres rares, on était une victime collatérale, et on avait aussi des restrictions d'exportation de la Chine vers l'Europe, et elles sont levées en même temps que les restrictions vers les États-Unis.
Alors, avant de parler de l'Europe dont on va parler, qui sort gagnant de ce deal, quand même, là? C'est effectivement, on entend Donald Trump qui se réjouit, mais est-ce que c'est pas la Chine finalement qui gagne un peu cette manche-là ?
Non, les deux sortent gagnants, parce que les Américains avaient absolument besoin d'un accord sur les terres rares, et les Chinois avaient absolument besoin de rouvrir un peu les frontières des États-Unis, de lever les sanctions sur leurs entreprises. Donc les deux sont gagnants.
Alors, on se souvient de ce qu'avait obtenu l'Union européenne, hein, il y a quelques mois, c'était l'été dernier, 15% de droits de douane sur les produits qu'elle exporte aux États-Unis. Vous diriez, Patrick, que cet accord-là, il est plus ou moins équilibré que ce qui se dessine aujourd'hui avec la Chine ?
Moi, je trouve que la surprise, c'est que l'Europe ne soit pas arrivé à négocier un accord avec les États-Unis du type de celui qu'a négocié la Chine. Parce que l'Europe avait beaucoup de moyens de pression sur les États-Unis. L'Europe exporte énormément de biens d'équipement, je ne parle pas des voitures, de biens d'équipement industriels aux États-Unis, exporte énormément de produits de médicaments, de vaccins aux États-Unis. Et puis l'Europe investit 350 milliards d'euros de son épargne chaque année aux États-Unis. Et donc, on avait un moyen de pression. Alors, ça nous aurait fait aussi souffrir à court terme. Enfin, les Chinois avaient accepté de souffrir à court terme en mettant des droits de douane à un moment à 100%. Un moyen de pression qui était d'arrêter d'exporter vers les États-Unis les médicaments, d'arrêter de financer les États-Unis. Pourtant, l'accord Europe-États-Unis est extraordinairement défavorable à l'Europe. Alors, ce n'est pas tellement les droits de douane...
Il est vraiment plus défavorable que ce qui se joue là entre les États-Unis et la Chine.
C'est le droit de douane de 15%. Bon, alors, il y a des exceptions, les avions, hein, mais, et puis c'est 50% sur l'acier et l'aluminium. Mais en plus, il y a un engagement des Européens d'acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine. Enfin, c'est du GNL, hein, du gaz liquéfié, d'acheter du matériel militaire américain. Et ça, c'est un coût terrible à l'Europe de la défense, hein, d'acheter des semi-conducteurs américains. Il y a de 600 milliards de dollars d'investissement d'entreprises aux États-Unis. Et puis, on voit que les Américains deviennent gourmands. La dernière demande, c'est une demande selon laquelle les régulations européennes du numérique, hein, la fameuse CSRD, C3D, donc la régulation de reporting et la régulation du devoir de vigilance, donc les régulations d'entreprise en Europe, ne s'appliqueraient pas aux boîtes de la tech américaine. Donc l'Europe a quand même beaucoup lâché, et pourtant elle avait une capacité de négociation à peu près identique à celle de la Chine. Donc je crois que on paye la segmentation, les divergences d'opinion entre les pays européens, mais l'Europe, si elle s'était présentée unie à cette négociation, aurait pu aboutir à négocier un accord aussi favorable que l'accord chinois.
On aurait pu faire mieux, vous diriez que l'UE et ses grandes entreprises on a déjà un peu en partie cédé au chantage de Trump, c'est un peu ce que vous dites ?
Bah oui.
Moi, je suis quand même un peu plus modérée, parce que c'est facile de refaire l'histoire après coup. On avait quand même besoin des Américains à la fois pour continuer à défendre l'Ukraine, et donc on pouvait pas non plus complètement les envoyer promener. La deuxième chose, c'est que une de nos principales armes vis-à-vis des États-Unis, nos principales armes de souveraineté, c'est les vaccins. Or, on peut pas jouer sur les vaccins, on n'allait pas jouer sur la santé d'un allié, donc on s'est restreint de faire ça. C'est peut-être quand même ça donne une image positive sur l'Europe. Puis la deuxième chose, c'est que ce qui compte dans les droits de douane, c'est le niveau relatif. C'est-à-dire, si vous avez 15% mais que les Chinois ont 47%, vous êtes encore gagnant. Ce qui est très injuste, c'est que les Chinois sont pénalisés par les Américains parce qu'ils subventionnent leurs entreprises, parce qu'ils ne respectent pas à ce titre-là, ils contournent à ce titre-là les règles de l'OMC, parce qu'ils peuvent jouer sur leur taux de change, et ce que nous, les Européens, ne faisions pas. Et le commerce, si on intègre les services numériques, était plutôt équilibré avec eux. Donc parce que Donald Trump est agacé qu'il y ait des voitures allemandes aux États-Unis, on a payé 15% qu'on n'aurait pas dû payer. Mais quand on regarde en relatif, finalement, on s'en sort pas si mal, Et quand on regarde le commerce Europe-États-Unis, la progression de janvier à juillet 2025 par rapport à 2024, on est en progression de 14%. Quand on regarde sur l'aéronautique, les chiffres de la France, on continue à vendre des avions. Et quand on regarde en parallèle les exportations Chine-États-Unis, elles sont en baisse de 17%. Donc,
oui, mais Sophie, c'est très trompeur, ces
Patrick
chiffres.
Patrick Artus.
C'est d'abord les chiffres inclés. Si vous faites le deuxième trimestre, alors on a 10% de baisse des exportations de l'UE vers la Chine, parce que le mois de mars, tout le monde anticipait les droits de douane. Donc faut... Et puis, la Chine détourne les droits de douane. La Chine a un boom incroyable de ses exportations vers l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud-Est vers les États-Unis. Donc c'est assez étrange. Et en réalité, les exportations de la Chine augmentent considérablement. Elles sont en hausse de près de 9%.
Mais c'est vrai qu'on a ces chiffres de l'INSEE qu'il faut souligner cette semaine. Hein. C'est-à-dire qu'en Europe et en France, les exportations ne se portent pas si mal. Et la croissance, on a un petit bonus par rapport à ce à quoi on s'attendait. Ça, c'est le verre quand même à moitié plein.
C'est l'aéronautique qui est hors accord, hors droit de douane, et le matériel militaire. Quoi. Mais enfin, moi je reste sur mon point. Je pense qu'on aurait pu, si on s'était présenté unifié et si on avait mieux préparé cette négociation et si on avait osé avoir une attitude à la chinoise, hein, c'est-à-dire être plus exigeant, négocier un accord. Et c'est le pire, c'est pas les droits de douane, c'est les engagements d'investissement. Et donc, peut-être que ces engagements seront pas tenus, mais si on tient les engagements d'achat de matériel militaire, d'investissement européen aux États-Unis, d'achat d'énergie américaine, on va d'abord se mettre dans la main des États-Unis sur notre énergie, et puis on va se désindustrialiser massivement, c'est-à-dire les entreprises européennes vont se délocaliser massivement aux États-Unis. Et donc, on a un vrai risque que l'Europe finisse avec des fournisseurs chinois pour les produits manufacturés et des fournisseurs américains à la fois pour les produits manufacturés et pour le numérique.
Qu'est-ce qui reste à l'Europe ?
Il reste les musées, les croisières sur la Seine, etc.
Ça veut dire quoi ? On est condamné à subir entre ces deux géants ? Quelles sont nos cartes ?
Ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé au lendemain de la rencontre entre les deux leaders américains et chinois. C'est que Xi Jinping est allé à l'ASEAN, la réunion des chefs d'État des pays d'Asie, du Sud-Est asiatique. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont commencé déjà à parler de l'étape d'après. Ils ont commencé à parler de coopération sur l'intelligence artificielle. Donc ce qu'il faut, c'est que nous, on se redote d'une capacité de vision à long terme et de défendre nos intérêts. Donc il faut qu'on regarde exactement sur quoi on veut défendre nos souverainetés et qu'on commence à investir. Et ça impose de réindustrialiser. Il faut qu'il y ait une discussion générale au niveau européen. C'est pas facile. On voit qu'il y a un sujet en ce moment autour duquel on tourne à Bruxelles, c'est le contenu local minimum pour les voitures européennes. Donc pour qu'on garde de l'industrie et pour qu'on commence pas à importer toutes les pièces de Chine comme on commence déjà à porter des voitures, mais il y a cette idée d'imposer un contenu local minimum. Le problème, si on fait ça, c'est qu'on risque de faire monter les prix. Et donc, est-ce qu'on est prêt à payer un peu plus cher pour défendre l'emploi et la souveraineté en Europe ? Puis la deuxième chose qu'on devrait regarder, c'est notre stratégie d'alliance. On est très opposé souvent en France aux accords commerciaux, comme les accords sur le Mercosur, parce qu'on a toujours peur que ça dégrade la situation de nos agriculteurs. Mais peut-être qu'il faut multiplier ce type d'accord pour avoir un réseau partenarial qui ne dépende pas uniquement des États-Unis et de la Chine.
Patrick Artus, très rapidement.
Oui, c'est clair qu'il faut que l'Europe abandonne le soutien de la consommation à court terme. On soutiendra la consommation à long terme que si on garde une industrie substantielle en Europe. Et donc, il faut la protéger, il faut avoir du contenu local, il faut utiliser ce qu'on a, les économistes appellent la protection des industries naissantes. Donc, il faut protéger les industries qui sont petites aujourd'hui, mais qui sont stratégiques. Et si on ne fait pas ça, et si on continue à subventionner le consommateur dans une logique de subventionnement de la consommation à court terme, on va avoir une situation catastrophique à long terme.
Et en même temps, si on produit en Europe, on produit plus cher et donc le consommateur n'aura pas les moyens d'acheter.
Mais il va falloir que le consommateur accepte de payer transitoirement plus cher les produits qu'il achètera avec des contenus européens plus élevés.
C'est la fin de cette discussion. Merci Patrick Artus d'Ossiam et Sophie Fay du journal Le Monde. Merci à vous deux pour ce débat.
La déindustrialisation
L'économie, comme elle tourne et s'invente à l'étranger. Ce matin, nous retournons aux Pays-Bas, où l'on rêve de nouveaux espaces à bâtir et où l'on va assez loin dans la réflexion.
We choose to go to the moon, not because it's easy, but because it's hard. Met die woorden liet Kennedy in de jaren 60 zien hoe we groots kunnen denken en doen als we het echt willen. En vandaag heeft Nederland een nieuwe missie naar de maan nodig. Geen verre planeet, maar 10 nieuwe steden.
Nous avons choisi d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. La citation est de Kennedy, mais la voici dans la bouche de Rob Yetten, dont le parti centriste libéral a créé la surprise cette semaine face à l'extrême droite à l'issue des législatives néerlandaises. Vous entendiez un extrait d'un de ses clips de campagne, et notre nouvelle mission sur la Lune, poursuit-il dans ce clip, c'est de construire 10 nouvelles villes. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant Benelux. Vous étiez à Amsterdam ces jours-ci. À 38 ans, Rob Yetten pourrait être le prochain Premier ministre des Pays-Bas. Et sur ces 10 nouvelles villes en projet, il en imagine une gagnée sur la mer, Fabien.
Oui, une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, peut-être 120 000. Il ne s'agit pas du dernier projet pharaonique en date d'un puissant émir au Moyen-Orient, non. Nous sommes aux Pays-Bas et en fait de mer, il s'agit plutôt d'un grand lac qui baigne Amsterdam sur son côté est, le Markermeer, avec en face, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, la ville d'Almere, construite sur un marais asséché dans les années 70. Les Pays-Bas ne partent donc pas tout à fait de rien en matière de création de villes nouvelles. Mais l'originalité de ce projet, c'est l'ampleur des travaux qu'il nécessiterait. Un chantier à 20 milliards d'euros, il faudra trouver comment le financer, mais également vaincre les réticences des défenseurs de l'environnement, car il s'agit d'une zone naturelle protégée.
Aux grands mots, les grands remèdes, hein, répond Rob Yetten. Qui a, Fabien, d'autres projets dans les cartons ?
Oui, en tout 10 nouvelles villes, une gagnée sur l'eau, on vient d'en parler, mais aussi 9 autres sur la terre ferme, gagnées sur des champs et des terres agricoles. Là aussi, les débats s'annoncent rudes. L'objectif, c'est de construire des nouvelles villes dynamiques, attrayantes, pas seulement des cités dortoirs, comme cela a pu être le cas dans les dernières décennies. C'est une tendance de fond. La course au foncier constructible va s'accélérer aux Pays-Bas, un pays contraint par sa superficie réduite. On y construit en hauteur. Des tours de logements hérissent désormais les quartiers nord d'Amsterdam. Et si Rob Yetten parvient à former un gouvernement, une de ses premières mesures sera l'adoption d'une loi d'urgence prévoyant la construction à court terme de 200 000 maisons dans tout le pays.
C'était Fabien Cazot avec nous d'Amsterdam. Sur France Inter, dans moins de 10 minutes, notre invité Rémy Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement, nous rejoindra dans ce studio. D'ailleurs, il vient d'arriver, il vient d'entrer dans le studio. Le secteur de l'aide publique au développement est en crise, crise majeure de financement aux États-Unis, mais aussi en Europe et notamment en France. Comment remonter la pente ? On parlera aussi de la COP30 qui devrait être un moment important pour ce qu'on appelle la finance climat. On va tout vous expliquer. Mais d'ici là, plongez au cœur d'un autre secteur en difficulté, celui de l'économie sociale et solidaire, avec ses centaines de milliers de structures coopératives, mutualistes et associatives fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale, pas d'objectif lucratif. C'est 10% de notre PIB, 16 milliards d'euros de financement de l'État en 2024 et près de 7 milliards d'euros des collectivités. Mais les réductions budgétaires de 2025 et pour 2026 poussent le secteur à sonner l'alarme. Avec notre reporter Léa Gage, on pousse la porte pour commencer de l'association À tout linge. Nous sommes en région Pays de la Loire.
Bonjour.
Bonjour l'équipe.
Alors ici, c'est la salle de coupe. À partir de bâches, vous voyez être jetées, de tissus aussi. On les transforme en accessoires de mode. Donc ça, c'est la marque L'Atelier, mais aussi on fait un atelier recyclage de vêtements professionnels qui sont en fin de vie. Et puis c'est aussi la salle de formation, parce que les salariés que nous recrutons ne sont pas du tout formés à la confection. Hélène Levaux-Thomas, je suis la directrice donc, de l'association À tout linge, qui porte un atelier et chantier d'insertion sur le sud Vendée. Donc c'est une mission qui est confiée par l'État. On recrute des personnes en CDD d'insertion, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d'emploi longue durée. On va mettre en situation de travail la personne, elle va avoir un salaire tous les mois, et puis elle bénéficie d'un accompagnement social et professionnel, et donc on va les amener à reprendre confiance en eux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous vous appelez ?
Pierre-Antoine, j'ai 31 ans.
Et alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
Je suis en train d'épingler de la doublure sur un zip pour pouvoir ensuite l'assembler à la machine. Je vais repasser sur ma première piqûre ici. Je lève mon pied presseur, je positionne mon aiguille. J'ai eu une longue période où j'avais besoin de prendre du temps pour ma santé. Et quand je suis arrivé mon premier jour ici, c'était vraiment le gros stress. Est-ce que je vais y arriver? Ça fait 4 ans que je n'ai pas été dans le domaine professionnel, que je n'ai pas travaillé. Et on m'a donné ma chance. On a aussi tout l'accompagnement avec des ateliers sur comment mettre en page un CV, le rendre attractif. On peut aussi demander éventuellement des conseils sur comment on peut se préparer pour un entretien, pour se remettre en selle dans le marché du travail. J'ai décroché des entretiens et donc j'ai été bien préparé. Je suis confiant maintenant. Je me dis que ce serait dommage que nous, on ait eu la chance de pouvoir en bénéficier et qu'à cause des coupes budgétaires ou des décisions qui font qu'il y a moins d'aide et moins d'investissement dans ces structures, bah c'est beaucoup de personnes comme moi ou comme certains de mes collègues qui seront dans l'appréhension de qu'est-ce qui va advenir de nous.
C'est des coupes budgétaires pour nous qui sont énormes, avec un impact énorme. C'est-à-dire que l'État finance les salaires des personnes que nous accueillons en CDD d'insertion. Et donc en 2021, on avait 39,5 ETP financés par l'État. Et aujourd'hui, on est à 31,63 équivalents temps plein. Et puis le projet de loi des finances prévoit une baisse de 14%. Ça veut dire que pour l'année prochaine, c'est un 25 équivalents temps plein. J'ai quand même aujourd'hui plus d'une trentaine de personnes qui nous ont été orientées, qui sont sur notre plateforme de l'inclusion. Hein. Je ne peux pas les faire rentrer alors que nous avons un véritable besoin. Et puis on a eu aussi des baisses de budget pour la formation dispensée auprès de nos salariés. En 2024, on faisait 13 803 heures de formation pour nos salariés en insertion. En 2025, nous ne pourrons faire que 6 500 heures. Et en 2026, à peu près 3000 heures. Quoi. Donc on a un budget aujourd'hui qui est complètement déséquilibré. Résultat, notre modèle économique n'est plus viable du tout.
Le budget de l'association Atout-Linge repose à 70% sur des financements publics. Le reste repose sur les ventes de vêtements confectionnés et les activités de blanchisserie. La région Pays de la Loire, où elle se trouve, compte plus de 14 000 structures d'économie sociale et solidaire. Selon la chambre régionale du secteur, leur situation financière se dégrade, avec des départs non remplacés, des activités réduites, voire des licenciements économiques qui s'annoncent. Au niveau national, les représentants de l'ESS parlent d'un plan social diffus sur le territoire. Pour alerter sur les nouvelles coupes prévues dans le budget 2026, des rassemblements ont été organisés un peu partout en France. Et la semaine dernière, les porte-paroles du secteur étaient réunis à Paris.
Merci à vous d'être venus. On a convoqué cette conférence de presse à l'initiative de l'ESS France, avec un focus particulier sur les populations en France les plus vulnérables.
L'ancien ministre Benoît Hamon est à l'origine de la loi de 2014 qui a défini le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Il préside aujourd'hui ESS France, l'un des organismes de promotion du secteur.
On est tous assez spontanément persuadés que les entreprises de l'ESS sont sous perfusion de l'argent public. Et la Cour des comptes a révélé que les entreprises de l'ESS ne bénéficient que de 7% des aides publiques aux entreprises. Les 93% qui restent, c'est pour des sociétés commerciales, classiques, alors que nous représentons 14% de l'emploi privé. Donc, en fait, l'économie sociale et solidaire est moins aidée que l'économie conventionnelle. Donc, il y a une forme d'offense faite à nos organisations, à baisser les budgets, à demander à ce que ces entreprises fassent plus d'efforts que les entreprises conventionnelles ne le font. Et on constate quoi ? Que dans ce budget tel qu'il est, il y a 1 milliard d'euros en moins sur les associations. C'est plus de 200 millions d'euros en moins sur l'insertion par l'activité économique. Ça va être 60 000 personnes en moins réaccompagnées vers l'emploi. Et on pourrait égrener dans le domaine du tourisme social, c'est des moyens en moins sur le départ en vacances des tout-petits les plus pauvres. Ce sont sur ces postes-là qu'on fait des économies. Presque 10 millions de Français aujourd'hui, pour accéder au droit à la santé, au logement, à l'alimentation, passe par des entreprises de l'ESS. L'État, dans son budget, va diminuer les budgets des associations qui permettent aux personnes les plus pauvres de rester dignes, alors que nous réalisons, à la demande de l'État et des collectivités locales, des missions d'intérêt général. Ce qui est en train de se passer, c'est non seulement grave sur le plan économique, mais totalement immoral sur le plan politique.
Les organisations qui représentent l'ESS ont rédigé des dizaines d'amendements dans l'espoir de faire évoluer le budget 2026. Pour répondre à l'inquiétude du secteur, le gouvernement a mis en place une cellule de liaison et d'accompagnement en juin dernier, avec à sa tête le délégué ministériel Maxime Baduel.
Je comprends l'inquiétude légitime des acteurs de l'ESS, des acteurs associatifs dans cette période de coupe budgétaire. Et c'est pourquoi, en fait, on a lancé cette cellule de liaison et d'accompagnement pour justement suivre l'impact de ces évolutions budgétaires et apporter des solutions concertées entre les collectivités territoriales, l'État, les banques publiques privées. On travaille justement à quelles seraient les évolutions à faire demain. Premièrement, cela pourrait passer par sécuriser le recours à la subvention en clarifiant un certain nombre de règles, définir ce qu'elle peut recouper en termes de frais de fonctionnement, d'excédents raisonnables de trésorerie, en termes d'utilisation. Et puis, cela va passer aussi par réfléchir aux charges qui pèsent sur les acteurs associatifs, et je pense en premier lieu à la taxe sur les salaires, qui parfois freine ces acteurs dans les embauches, dans le développement. Donc toutes ces hypothèses sont sur la table pour sécuriser la viabilité économique, le modèle économique des acteurs associatifs.
Si la piste d'un coup de pouce fiscal est bien accueillie, la redéfinition d'un cadre plus strict pour le versement des aides publiques pourrait laisser perplexes les principaux concernés.
Timothée Duverger, je suis responsable de la chaire territoire de l'ESS à Sciences Po Bordeaux et chercheur au Centre Émile Durkheim.
Pour cet universitaire, au-delà des coupes budgétaires, le secteur manque avant tout d'une véritable vision politique.
Je pense que l'État ne porte pas aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. C'est ça le fond du problème. La Commission européenne lui a exigé en fait qu'il adopte une stratégie pour l'économie sociale et solidaire. C'est demandé à chaque État membre de l'Union européenne. Il a normalement jusqu'à la fin de l'année pour se faire. Nous sommes fin octobre. L'ébauche de stratégie qui a été présentée n'est d'évidence pas à la hauteur. Enfin, ça ne ressemble pas vraiment à une stratégie, à vrai dire. En fait, l'État tend en réalité pour l'essentiel à ignorer l'ESS. D'ailleurs, c'est la conclusion du rapport de la Cour des comptes qui dit deux choses. Un, l'économie sociale et solidaire est sous-financée. Deux, elle n'est pas structurée, elle n'est pas accompagnée par des politiques publiques suffisamment construites, suffisamment portées.
L'économie sociale et solidaire, un modèle percuté par les coupes budgétaires. C'était le reportage de Léa Gage.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Claire Chaudière.
Et nous poursuivons la discussion avec l'invité donc d'On n'arrête pas l'écho, Rémy Rioux, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous dirigez l'Agence française de développement, l'AFD. C'est plus de 12 milliards d'euros investis chaque année, dont 6 sur le continent africain. Votre activité, c'est 85% de prêts, 15% de dons. C'est cette partie dons qui est la plus menacée. Si les baisses de budget pour 2026 se confirment, elles pourraient être divisées par 2 en 2 ans. La partie investissement, elle, se porte bien. On va y revenir. Alors, vous avez écouté ce reportage. Première question, ça vous étonne de voir qu'en période de tension budgétaire très forte comme celle qu'on vit en ce moment, ce sont les associations, la solidarité qui trinquent en premier, c'est normal ?
Alors, on connaît bien le monde de l'ESS. D'ailleurs, mm-hmm. Il tenait son grand congrès mondial hier à Bordeaux. On était représentés, bien sûr. Et de quoi on parle, là ? On parle de, et Patrick Artus et Sophie Fay en parlaient à l'instant, c'est notre capacité à nous lier positivement avec le reste du monde, en fait. C'est ça, ce qu'on appelle la politique de développement ou l'aide au développement. Et dans le budget de l'État, vous savez, c'est à peu près 6 milliards d'euros. Et effectivement, en 2 ans, on devrait passer de 6 à 3, si la loi de finances qui est en débat au Parlement aujourd'hui, donc une réduction de 50%. C'est, au total, c'est 0,5% du budget de l'État. Et à l'intérieur de ce 0,5%, il y a 0,2%. Et ça, c'est le budget, effectivement, vous le dites, qui est confié à l'Agence française de développement, que je dirige maintenant
depuis 10 ans. Mais sur ce secteur de l'économie sociale et solidaire, hier, Emmanuel Macron a dit d'ailleurs qu'il fallait renforcer les liens entre l'économie sociale et solidaire et l'AFD. Ça veut dire quoi ?
Alors, on a un partenariat avec ESS France. Il y a des résolutions, d'ailleurs, aux Nations Unies pour faire reconnaître, alors on appelle ça le social business dans le monde international, c'est-à-dire ce tiers secteur, c'est-à-dire qui est entre l'État et le marché, qui fournit des prestations et des services, je dirais, dans une optique non lucrative ou moins lucrative que le secteur privé pur. Donc oui, c'est un élément dans beaucoup d'économies. On y travaille, par exemple, en ce moment en Nouvelle-Calédonie, Vous savez, il y a beaucoup de tensions et il y a sans doute entre la société coutumière et la société de Nouméa, peut-être l'espace pour des services aux personnes, certaines formes de développement économique dont le territoire a bien besoin.
Mais ça vous choque ce que vous avez entendu là dans le reportage, cette diminution de moitié dont vous parlez là, vous en pensez quoi ?
Ben, je pense que l'AFD, c'est un actif stratégique pour la France. Je pense qu'on a construit une plateforme française dans le monde qui est respectée, qui est attendue, qui a de l'impact. 120 millions de personnes ont eu un accès à l'énergie grâce à nos interventions. On a protégé depuis 10 ans l'équivalent de la taille de la Turquie en conservation de la nature. On ramène 3 milliards d'euros aux entreprises françaises. Le secteur de la société civile en France, c'est 50 000 emplois. J'ai entendu Coordination Sud dire que peut-être il y en a 5 000 qui sont en train de disparaître. Donc oui, ça a des conséquences très concrètes. Et moi, je ne peux pas vous dire autre chose qu'on a absolument besoin, dans ce monde fragmenté, ce monde dangereux, ce monde complexe, d'une capacité, encore une fois, positive, à se faire des alliés, à se faire des amis dans le monde.
On va dézoomer un peu. Rémi Rioux, je voudrais vous entendre sur le panorama général mondial, hein. Qui fait quand même un peu froid dans le dos. Donald Trump qui démantèle l'agence USAID en janvier dernier. 10 000 financements pour la lutte contre le sida, la faim dans le monde, qui sont supprimés en quelques jours. Et puis pour d'autres raisons, des budgets qui se cassent la figure en Europe et en France, on le disait. Vous vous dites que derrière toutes ces secousses, c'est probablement un peu la fin d'une certaine histoire de l'aide publique au développement qui est en train de se jouer.
Disons que je pense, on n'est pas dans une grande crise macroéconomique. Il y a eu des baisses et des hausses de l'aide au développement, mais à chaque fois c'était parce qu'il y avait une grande crise financière ou macroéconomique. Mm-hmm. C'est pas tout à fait le cas sous le contrôle de Patrick Artus. Donc je pense en effet qu'il se passe quelque chose de plus structurel. On l'a bien vu aux États-Unis, Trump a pris cette action comme cible, en fait immédiatement, c'est quasiment sa première décision en février dernier. L'AFD, votre serviteur, vous l'avez peut-être vu, a été attaqué de façon grossière et mensongère par des forces politiques. Donc il y a quelque chose de politique qui se joue là, comme un totem en fait, quelque chose qu'on veut abattre. Et probablement que le récit de l'aide publique au développement, vous voyez, qui est né dans les années 60, en fait, au moment des indépendances, a peut-être vieilli un peu. Et donc je sens qu'il faut accélérer, presser le pas pour redéfinir un cadre et puis se reposer au fond les questions. Pourquoi on fait ça en fait ? Vos auditeurs se le demandent peut-être. Pourquoi on investit de l'argent dans le reste du monde alors qu'on a des besoins évidemment dans notre propre pays ? Et là je crois qu'il faut rappeler aux gens qu'il y a trois raisons pour lesquelles on fait ça. La première, c'est que si nos voisins vont bien, c'est mieux. Je pars demain en Liban et aussi en Syrie, on sait les risques pour nous de cette région du Proche-Orient. Deuxièmement, si on en tire profit nous-mêmes, nos entreprises, notre société civile, c'est encore mieux. Et puis troisième raison, il y a des biens communs, il y a des choses qu'il faut absolument gérer de façon collective, et c'est pas facile dans le monde actuel. On parlera peut-être du climat, ou pensons aussi aux migrations, tout simplement. On va perdre 20% de notre population active en Europe, et il y a 600 millions de jeunes Africains qui vont chercher du boulot d'ici à 2050, dans les 25 prochaines années.
Ça, c'est un immense sujet de développement dont vous parlez.
Exactement, qu'il y a de l'intérêt des autres. Ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Il y a de l'intérêt des nôtres. Il y a des intérêts nationaux dans cette affaire. Et puis, effectivement, on bâtit de l'intérêt mutuel, en particulier sur ces grands sujets qui terrifient les Français, d'ailleurs. Quand vous les interrogez, on fait chaque année, nous, un sondage auprès des Français. Ils sont très, très conscients de ces questions globales. Ils en sont très inquiets. Et ils nous demandent de faire quelque chose. Ils ont l'impression d'ailleurs que personne ne fait rien. Ce que je trouve dommage, puisque comme vous le dites, on a une capacité française, je pense, significative dans le monde.
Donc vous dites que c'est l'occasion de réinventer un peu les choses. On va y revenir. Juste qu'on comprenne quand même ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est quand même un effondrement des financements un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui est sacrifié ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui sacrifié dans le monde comme action en matière d'aide publique au développement ?
Alors ce que dit l'OCDE, c'est qu'on pourrait perdre effectivement en 2 ans à peu près un tiers de l'aide publique au développement. Donc on était monté à 220 milliards.
Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui est sacrifié ?
Donc ce qui est beaucoup touché, c'est les secteurs sociaux, évidemment. évidemment, parce que c'est là que le contenu budgétaire, on peut faire des investissements, bien sûr, dans les secteurs économiques, dans les secteurs sociaux, il faut du don, en fait, il faut de la subvention. Et donc là où ça va baisser le plus, c'est l'éducation, qui est pourtant un élément essentiel du développement. Et puis la santé, il y avait une étude dans The Lancet qui estimait peut-être à 14 millions la perte de chance, en fait, et des gens qui peuvent mourir, évidemment, de la disparition des financements américains.
Ça veut dire qu'on donne moins, on finance moins des actions très concrètes dans des pays très vulnérables, et on va, en revanche, peut-être transférer, c'est ce que vous dites aussi, faire un peu plus d'investissement dans des pays émergents, intermédiaires, c'est ça qui se joue? C'est cette bascule-là qui est en train de se jouer aujourd'hui?
Disons que ce à quoi on sert, c'est à faire deux choses qui sont assez différentes. D'abord, il y a effectivement quelque chose pour les pays et les communautés les plus vulnérables, donc ceux qu'il faut accompagner. Et puis, il y a ces biens communs sur lesquels il faut transformer les chaînes de valeur, transformer les circuits économiques, transformer les systèmes financiers. C'est deux choses assez différentes. Vous voyez, d'un côté, c'est la santé et l'éducation dans les pays les plus pauvres et les plus vulnérables.
Mais c'est ça qui trinque aujourd'hui.
Et il faut aussi garder un peu de ressources publiques pour accélérer la transition pour le climat ou pour se protéger des pandémies. Vous voyez, les grandes questions mondiales.
Alors, votre credo, et vous d'ailleurs, vous commencez à être entendu parce que c'est quelque chose qui a été repris lors de la grande conférence de Séville en juin dernier, vous dites il ne faut plus parler de dette publique au développement, mais il faut vraiment parler d'investissement social et solidaire et durable. Mais ça a quand même effectivement un certain nombre d'implications. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose si on investit plutôt que...
Alors, investissement solidaire et durable, vous l'entendez, il y a solidaire dedans.
Ouais,
donc,
ouais.
Ça peut être de l'investissement public.
C'est
plutôt une façon de présenter les choses. C'est-à-dire le mot d'aide.
Colonial.
Vous savez, moi, je voyage dans le monde entier. Quand je rencontre des partenaires, des ministres, des chefs d'État, ils veulent plus qu'on leur parle d'aide. En fait, le monde a changé. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez bien, il y a 61 pays dans le monde qui sont à la fois qualifiés de pays développés et de pays en développement, selon les différents classements des organisations internationales. Ça veut dire un pays sur trois, en fait, dans le monde, qu'on ne sait plus exactement ce que c'est. Donc, l'émergence économique de beaucoup de puissances dans le monde est venue, évidemment, profondément transformer ce monde de la coopération internationale. Et je pense, moi, personnellement, mais c'est à débattre, que ce monde d'investissement, évidemment, dans lequel il y a de la solidarité et du durable, c'est-à-dire on arrête de détruire la planète, est plus respectueux, en tout cas je le constate, est mieux accueilli par nos partenaires.
Et les dons, ce serait désormais la générosité privée?
C'est l'investissement solidaire, c'est surtout de passer dans une logique d'investissement, c'est-à-dire on veut créer de la valeur dans les pays, on veut s'engager à long terme, c'est ça un investissement. Et puis, un investissement,
un
retour de toute nature, qui n'est pas que financier et économique.
Alors, on va parler un peu de ce qu'on appelle la finance climat. Ce sont ces outils financiers pour accélérer la transition, notamment ce qu'on appelle les marchés carbone. Pour faire très simple, on achète des crédits carbone pour financer des actions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous dites qu'il peut se passer des choses là-dessus assez importantes à la COP30, à Belém. De quoi est-ce qu'on parle? Et il faut rendre le sujet intelligible pour nos auditeurs et auditrices.
Donc, le sujet est très simple. Il faut réduire nos émissions. Et donc, si on continue pour des raisons de développement économique à émettre, ça va continuer, il faut essayer de compenser. Et donc, je ne sais pas, d'investir dans des mangroves, d'investir dans des énergies renouvelables. Et ça, je dirais, ce qui est intéressant et ce dont on va parler à Belém à partir de la semaine prochaine, c'est où est-ce qu'on peut le faire dans le monde de la façon la moins coûteuse et la plus efficace. Et donc, il y a un outil, ce n'est pas le seul outil. On fait beaucoup d'autres choses pour le climat. L'AFD tient les engagements très scrupuleux de la France depuis l'accord de Paris il y a 10 ans, qui est une grande fierté française.
Mais on vit quand même un gros moment de recul sur les sujets environnementaux.
On va voir. La photographie à Belém. Vous avez peut-être vu, les Chinois ont annoncé qu'ils avaient atteint le pic et puis que maintenant ils s'engagent à baisser de 10% leurs émissions. Je dirais le climat, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est on a pendant 10 ans, on a fait le plaidoyer pour le climat avec un appel un peu moral. La vérité, c'est que maintenant, vous en avez avait parlé, c'est devenu un sujet de compétitivité, c'est devenu extrêmement
en tout cas,
sérieux.
Pour terminer ce sur quoi on était parti, vous vous dites il faut que l'Europe finalement compte dans ses objectifs l'aide à décarboner le reste du monde. C'est un peu ça qui se joue là en ce moment, c'est ce moment-là.
Je ne veux pas être technique, mais on a négocié à Bakou l'année dernière un mode d'emploi de l'utilisation effectivement des crédits carbone.
On n'a vraiment plus le temps pour.
Et on peut en acheter à l'étranger et ça compte dans votre trajectoire à vous, européenne. Et donc on espère, l'Europe en discute d'ailleurs demain aux les ministres de l'Environnement, qu'on va avoir une partie de notre engagement dans de l'investissement international. Et ça, ce n'est pas de l'aide, vous voyez, puisqu'on achète des crédits carbone qui vous aident à faire
transition.
Et ça fait de l'investissement et du développement dans les pays du Sud.
Et ça décarbone.
Merci
beaucoup Rémi Rioux, directeur de l'Agence française de développement. Merci d'avoir été avec nous samedi matin.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Sandrine, on s'intéresse à ce qui peut accompagner un départ à la retraite. Marilyn vous a écrit du Bourget. Elle a lu que l'employeur devait verser une prime à toute personne prenant sa retraite si elle a plus de 10 ans d'ancienneté. Elle a 40 ans de maison et va prendre sa retraite dans 18 mois. Combien pourrait-elle toucher, vous demande-t-elle.
Vous avez bien lu, Marilyn. Les salariés qui ont au moins 10 ans d'ancienneté perçoivent une indemnité de départ en retraite. Dans le cas d'une décision volontaire de leur part, ils toucheront un demi-mois de salaire. Ensuite, ça monte. Pour vous, Marilyn, au-delà de 30 ans, c'est 2 mois de paye. Cette prime est imposable et soumise à cotisation sociale, sauf dans le cadre d'un plan social. La situation est différente si l'employeur décide de vous mettre à la retraite d'office. La prime est plus importante. Jusqu'à 10 ans de maison, c'est 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Ensuite, c'est 1/3 de mois. Pour vous, Marilyn, ce serait l'équivalent d'une année de rémunération. Mais l'employeur ne peut vous imposer de partir qu'à partir de 70 ans, ça fait long à attendre. Tout ça, c'est le minimum légal. Il y a des accords d'entreprise et des conventions collectives qui prévoient des sommes plus généreuses. Si vous étiez dans la chimie, Marilyn, vous toucheriez un chèque de 7 mois et demi de salaire jusqu'à 6 mois dans la métallurgie. Le secteur de la pub octroie une prime de fidélité après 35 ans de présence, ce qui n'est pas, avouons-le, une grosse prise de risque pour les employeurs de cette branche. Le turnover y est très élevé. Enfin, il faut savoir que selon les accords, cette prime peut être convertie en jours de congé, mise sur un compte épargne temps ou même mensualisée en cas de temps partiel de fin de carrière.
Mais au fond, hormis cette indemnité, qu'est-ce que touche un salarié comme Marilyn qui fait son pot de départ à la retraite ?
Eh bien, il perçoit évidemment son solde de tout compte, ses congés payés non pris, éventuellement une indemnité compensatrice de préavis. On n'y pense pas souvent, mais beaucoup d'accords prévoient des primes pour la médaille du travail. Ça fait très 20e siècle, mais selon la couleur et le nombre des années, argent, vermeil, or et grand or pour 40 ans de bons et loyaux services, ça peut rapporter gros, un mois de salaire, voire plus. Il y a donc ce qu'on peut toucher mais aussi ce qu'on ne touche plus, c'est le cas du compte personnel de formation. Le jour où vous ouvrez vos droits à la retraite, Marilyn, tout l'argent qui est dessus est perdu, vous ne pouvez pas le transférer à un proche ou à un collègue, il peut être réactivé qu'en cas de cumul emploi-retraite. La meilleure chose à faire est de vous inscrire à une formation avant le départ. Vous aurez ensuite tout le temps pour retourner en cours.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.